Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Il faisait chaud, très chaud. Marie ne s'expliquait pas cette chaleur soudaine qu'après quelques jours de pluie diluvienne. Seule avec l'enfant, elle lisait. Dans son petit lit, Henri s'agitait au risque de faire sortir l'aiguille de la perfusion. Il pleuvait sans arrêt. Les larmes aux yeux, Marie regardait l'enfant qui s'était enfin endormi. Une semaine s'était écoulée et il n'y avait aucune amélioration notable dans son état. Henri, tout à coup, fut pris de convulsions. Sa respiration se fit hoquetante. Affolée, Marie se pencha sur lui. L'enfant étouffait. Elle se précipita dans le hall et bondit sur la porte de la salle de garde. Il frappa à coups redoublés. Pas de réponse. Elle ouvrit, la salle était vide. Sans la refermer, Marie se mit à courir dans tout le service en appelant au secours. Marie revint alors auprès de son fils. Il râlait de temps à autre. Un hoquet ou un soubresaut le secouait, puis plus rien. Henri était mort. Incrédule, Marie secoua l'enfant comme un dormeur qu'on veut réveiller. Elle essaya de le mettre debout en vain. Elle prit contre elle le petit corps et se mit à pleurer. L'infirmière de garde, entre-temps, revenait en se dandinant, penchée sur ses hauts talons qu'elle faisait claquer sur les carreaux. Quand elle vit l'attroupement qui s'était formé devant la chambre de Marie et de son fils, elle s'approcha. À coups de coude, elle se fraya un passage et entra. Marie leva la tête et posa sur l'arrivante un regard lourd de reproche. L'infirmière comprit et expliqua sur un ton d'excuse. « J'étais allé chercher mon yaourt de l'autre côté. » Marie ne dit rien et continua à pleurer. L'infirmière enveloppa l'enfant dans sa couverture. Elle prit tous ses papiers et, suivie de Marie, toujours en pleurs, se dirigea vers la morgue. Marie pourrait-elle jamais vivre sans cet enfant pour qui elle avait accepté toutes les vicissitudes de la vie? Telle était la question qui hantait l'esprit de cette dernière tout au long du trajet qui séparait l'hôpital du foyer. Le petit Henri était enterré depuis 3 jours déjà, mais Marie ne pouvait rester seule. Assise, vêtue de noir, elle recevait les condoléances de gens qu'elle ne connaissait presque pas. C'étaient les fidèles de l'église catholique qui l'avaient vue tous les jours en compagnie des sœurs. Pauvreté n'est pas vice, certes, mais peut-on ne pas rougir de ne devoir la sépulture de son propre enfant qu'à la charité de certains? Si les sœurs, les prêtres, les fidèles de la paroisse et les filles du foyer ne s'étaient pas cotisés, ou Marie aurait-elle eu l'argent nécessaire à l'achat du cercueil? Une petite tombe anonyme parmi tant d'autres, généreusement fleurie par les religieuses, voilà le résultat de tant d'efforts. Et dit qu'elle avait espéré sortir de son long cauchemar en vainqueur. La réalité était toute différente. Rejetée par son père, humiliée par Jacques, montrée du doigt par son entourage, elle n'avait réussi en rien. Jamais plus, elle ne se promènerait avec un bel enfant au dos, fier d'être sa mère. Que dirait-elle à Antoine quand il reviendrait guéri avec sa mère? Sœur Angélique se retrouva seule avec Marie. Tous les visiteurs s'en étaient allés. Alors, Marie lui demanda, comme elle le faisait d'habitude en rentrant du marché,
« Sœur Angélique, où est mon fils ?»«
Près de notre Seigneur, parmi les anges. »«
Non, non! Mon fils est mort! » Mort parce qu'il n'avait pas de père. Mort parce que sa mère n'avait pas d'argent pour aller le faire soigner tout de suite dans un hôpital privé. Mort parce que le Seigneur n'a pas eu pitié de lui.
Du calme, Marie. Du calme, ma sœur.
J'ai eu foi en lui. Mais au moment même où j'ai eu le plus besoin de son secours, il m'a abandonné au milieu du désert.
Sœur Angélique ne voulut pas insister. Elle avait vu souvent ce genre de réaction. Les gens se disaient de fervents croyants, mais il suffisait d'un malheur pour qu'ils perdent la foi. Elle guida la jeune femme jusqu'à sa chambre où tout ce qui avait appartenu à l'enfant avait été enlevé. Marie se laissa emmener. Après la sieste, elle se sentit mieux. Elle dit à sœur Angélique qui priait au pied du lit.
« Ma sœur, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vivrai. Je ne désespère pas d'être un jour heureuse. »
Dieu soit loué, Marie. Il t'a redonné confiance en la vie.
D'un électrophone en sortait une musique douce. Une jeune femme fumait en se balançant dans un fauteuil à bascule. Soudain, elle se leva et alla se pencher à la fenêtre de l'appartement du premier étage où elle habitait. Nerveusement, elle surveillait sa montre. Pour tromper son ennui, la jeune femme prit un magazine et se plongea dans la lecture d'un article. Elle se leva encore avec brusquerie et laissa choir la revue. Marie, car c'était elle, mourait de trac. Elle avait envie d'abandonner, mais une petite voix du fond d'elle-même le lui interdisait. Et elle pensa.
Tout cet attirail que j'ai acheté, il faut bien que je l'utilise.
Marie ouvrit un battant de la porte aux fenêtres et le referma aussitôt. Elle ouvrit ensuite son armoire. Des tenues très osées se balançaient sur des cintres. Des perruques étaient alignées sur la première étagère de l'armoire. Elle referma la penderie. Où puiser le courage d'aller jusqu'au bout? Être une prostituée de luxe n'était pas facile. Elle avait envie d'y renoncer. Marie se raidit et se jugea stupide d'agir ainsi. N'avait-elle pas fait le plus difficile? Elle avait quitté les sœurs après s'être trouvé un appartement en ville dès qu'elle avait pu obtenir une place de sténodactylo dans une entreprise qui venait de s'ouvrir. Elle avait acheté les vêtements qui convenaient. Elle s'était renseignée sur la façon de procéder. Elle avait conçu 1000 projets. Si les affaires marchaient bien, elle reprendrait ses études brusquement interrompues, s'offrirait tout ce qu'elle pouvait désirer, ouvrirait un compte d'épargne et verrait les hommes, ces êtres orgueilleux, s'abaisser devant elle. Sa vie de prostituée serait une revanche sur l'homme. La jeune fille s'habilla et se maquilla. Quand elle eut fini, elle était tout à fait transformée. Hormis la robe blanche, collante et largement décolletée, les faux ongles et les faux cils qu'elle portait, rien ne signalait la fille de joie. Avant de sortir, Marie avala 2 cachets contre l'ivresse. Comme une voleuse, Marie guettait les moindres bruits. Puis, elle se glissa dehors et partit à la recherche d'un taxi. Elle en aperçut un venant en sens inverse et l'appela. L'automobiliste vint se ranger devant elle. Marie monta et donna l'adresse d'un cabaret de la place. Le chauffeur du taxi sursauta un peu quand il entendit
« Au night ».
Le night était une boîte de nuit très chic que fréquentaient seulement les gros bonnets. Ce cabaret nightclub avait une grande renommée pour sa chaude ambiance. Mentalement, Marie révisait son petit scénario. Elle se répétait sans cesse que tout irait bien.
« Dépêchez-vous !»«
Bien, madame !» répliqua le taximan.
« Mademoiselle !»«
Nous sommes presque arrivés. » Le chauffeur s'excusa et s'arrêta devant le night. Petit joyau, la boîte de nuit brillait de 1000 feux dans la nuit noire. Marie paya la course et descendit après avoir laissé un très généreux pourboire au taximan étonné. Sans hésitation, Marie franchit le seuil du night. Elle scruta un instant la pénombre et petit à petit, ses yeux s'y habituèrent. Elle choisit un coin et lentement, avec ostentation, marcha jusqu'à son tabouret recouvert de velours cramoisi. Elle sentait 1000 regards sur elle, mais elle ne parut pas s'en soucier. Elle ouvrit son sac et en sortit un étui à cigarettes en métal doré et un briquet assorti. Elle plaça, toujours avec le maximum de lenteur, une longue et fine cigarette entre ses lèvres et l'alluma. Elle en tira une bouffée et s'adossa au mur. Un serveur vint lui demander ce qu'elle désirait. Elle commanda sans ciller une bouteille de champagne. Aussitôt que le garçon la quitta, un homme d'âge mûr lui parla à l'oreille. Marie, qui ne perdait rien de la scène, fit semblant de n'avoir rien remarqué. Au bout de quelques minutes, le serveur revint avec une bouteille de champagne. Il servit une coupe à Marie et lui remit une note qu'elle déchiffra à la lueur de son briquet. Elle porta d'abord la coupe à ses lèvres et but, puis elle écrivit « d'accord » au verso du mot qu'elle rendit au garçon. Marie fumait toujours. La bouteille de champagne était maintenant vide. Le premier client, impatient, lui triturait les doigts. Agacée, elle se leva. L'homme la suivit. Sous la lumière de l'entrée, Marie le regardait attentivement. Cet homme aux tempes grises, dont le ventre était serré dans un gilet, aurait pu être son père. Une alliance brilla à son annuaire gauche lorsqu'il fouilla sa poche pour retrouver sa clé de contact. « On y va ?» demanda le client.
« On y va !»
Le réveil la tira de son lourd sommeil. Elle s'assit sur le lit, se frotta les yeux et regarda son chevet. Des billets de banque neufs étaient posés sur la table. Avec un petit sourire de satisfaction, Marie se mit à les compter. 20 000 francs. La jeune femme était contente d'elle. Heureuse d'avoir fait d'un coup de sein un coup de maître. Le premier client avait été l'épreuve du feu. L'argent n'a pas d'odeur, se dit-elle. Et celui-ci, dès ce matin, ira sur mon compte en banque. Marie s'habilla rapidement. Il était presque 8 heures et il ne fallait pas qu'elle arrive en retard au bureau. Elle ne voulait à aucun prix se faire remarquer en empruntant un taxi. Les sténodactylographes modestes comme elle n'empruntent que l'autobus. Vêtue d'un ensemble élégant, Marie se mêla à la foule anonyme des travailleurs qui chaque jour attendaient le bus avec impatience. « Veuillez agréer, monsieur et cher client, l'expression de nos sentiments dévoués. » Marie, penchée sur son bloc sténo, s'appliquait à prendre l'une des nombreuses lettres que lui dictait son patron. « Ce sera tout pour le moment, » dit monsieur Kissy à Marie.
« Bien, monsieur. »
Dans les couloirs, Marie distribuait sourires et bonjours. Elle était très aimée dans l'entreprise, toujours égale à elle-même, gaie, ponctuelle. Ne rechignant pas à l'ouvrage, elle était le type même de l'employé modèle. Derrière la fraîcheur de ses 20 ans que ni l'enfantement, ni les privations et les chagrins n'avaient altéré, Marie cachait sa double vie. Cependant, bien des gens la trouvaient étrange. Plusieurs de ses collègues, hommes, avaient essayé de la séduire et s'étaient vus remettre à leur place. Un jour, le patron, pour lui faire plaisir, lui proposa de faire des heures supplémentaires. Marie refusa catégoriquement. Il fut très étonné, car les jeunes sténodactylos recherchaient généralement l'occasion d'augmenter leurs revenus. Même la logeuse de Marie ignorait les activités nocturnes de la jeune fille. En effet, dès 21h, Marie, qui aidait les enfants de la femme à faire leurs devoirs, montait chez elle et on ne la voyait ressortir que le lendemain matin pour aller au bureau. Les dimanches, elle allait au marché et une fois rentrée, ne réapparaissait que le lendemain. Madame Kouakou, la logeuse, appréciait les talents de cuisinière de Marie qui souvent l'invitait à manger. Marie, par sa courtoisie, avait su trouver le chemin du cœur de bien des gens et pas un ne passait sans s'assurer qu'elle se portait bien. Parfois, elle ressentait une vive honte à les tromper aussi impunément. Elle avait envie de tout leur raconter. Mais personne n'aurait compris son comportement. Le plus tranquillement du monde, Marie continua à mener sa double vie. Elle n'était ni heureuse ni malheureuse. Elle vivait, c'était tout. Sans idéal, sans but. Une seule chose semblait avoir de l'importance, l'argent. Son emploi de sténodactylo lui rapportait juste de quoi vivre sans gêne. Mais elle aspirait à plus, elle voulait l'opulence. Marie aurait continué à vivre ainsi si elle n'avait pas eu des ennuis de santé. Le manque de sommeil, l'alcool, le tabac, le travail prolongé avaient eu raison de sa résistance. Elle dut aller consulter le médecin de l'entreprise. Il lui prescrivit 2 mois de congé car depuis 2 ans qu'elle était entrée dans la maison, elle n'avait pas songé à prendre de vacances. Marie décida de suivre les conseils du médecin et de quitter Abidjan pour se reposer.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation Aoussi Potter.